Donc on se présente, enfin on ne se présente jamais en fait. Thomas Coutreau du collectif ACDC. Donc on va présenter un peu nos réactions au rapport des inspections, inspection générale des finances et des affaires sociales sur les méthodes statistiques d'estimation du chômage, rapport publié lundi dernier. Et aussi sur les décisions qu'ont prises dans la foulée, puisqu'elles ont été annoncées le même jour que la publication du rapport, l'INSEE et la DARES, hein, pour le nouveau mode de publication des statistiques du chômage. Et dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement nos réactions par rapport au rapport, et puis Julie Hervian de la CGT-INSEE dira un petit peu ce qu'on pense du positionnement de l'INSEE et de la DARES dans cette... À ce stade-là, Jean-Pierre Guénantaine du MNCP dira quelques mots sur la non-prise en compte des chômeurs inscrits à l'NPE dans le taux de chômage BIT, nouvelle définition. Et puis Pierre Concialdi terminera sur les travaux du groupe de travail du CNIS et ce qu'on peut en attendre pour essayer de sortir par le haut de cette crise des chiffres du chômage. Et non pas sortir à la va-vite, ce qui nous semble être un petit peu la tendance actuelle. Alors d'abord, sur le rapport des inspections des finances et des inspections des affaires sociales, bon d'abord, il faut dire qu'on se félicite du fait que ce rapport, pour la première fois, reconnaît officiellement que les statistiques de la NPE, depuis 2 ans, connaissent une dérive à la baisse qui les rend inutilisables pour l'analyse conjoncturelle du chômage. C'est ce qu'on disait depuis plus d'un an, c'est reconnu maintenant officiellement, donc on ne peut que s'en féliciter et rappeler qu'il y a encore quelques mois, le Premier ministre et le ministre du Travail nous traitaient d'agitateurs irresponsables parce que nous disions ce que dit maintenant un rapport officiel. Donc ça, c'est un point qui nous satisfait. Deuxième point qui nous satisfait, c'est que les conclusions du rapport reprennent des propositions que nous avions faites à la suite des états généraux des chiffres du chômage et de la précarité qui se sont tenus le 29 mai dernier. Les deux principales propositions qui sont reprises, et ce dont nous félicitons, c'est la suspension du calcul mensuel d'un taux de chômage BIT à partir des données de la NPE. Donc ça officialise le fait que les données de la NPE ne sont pas utilisables, n'ont pas de sens du point de vue de l'analyse conjoncturelle du chômage. Hein. On ne peut pas comprendre et mesurer l'évolution du chômage avec les statistiques de la NPE aujourd'hui. Et donc le chiffre qui va être publié ce soir par la NPE n'a pas de signification en ce qui concerne l'évolution du chômage. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant officiellement reconnu. Deuxième décision qui nous satisfait, c'est l'annonce de la publication du taux de chômage, la publication trimestrielle du taux de chômage au sens du BIT, issue de l'enquête emploi de l'INSEE. C'est aussi quelque chose que nous demandons. Donc l'enquête sur l'emploi de l'INSEE, qui est une enquête fiable, qui utilise une méthodologie constante et qui permet, à notre sens, d'évaluer l'évolution conjoncturelle du chômage de façon satisfaisante. Donc ça, on est satisfait de ces deux décisions, de ces deux recommandations plutôt, du rapport. Le rapport étant supposé faire des recommandations et pas prendre des décisions. Voilà pour les points de satisfaction. Alors en revanche, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans ce rapport. Le premier problème qui est sans doute le plus important dans l'immédiat, c'est qu'il semblerait qu'on cherche à escamoter la révision du taux de chômage. C'est-à-dire qu'on, en gros, on a un rapport qui reconnaît que le thermomètre était cassé, le thermomètre de l'NPE était cassé, ne fonctionne plus. Mais on va donc changer de thermomètre et en même temps qu'on change de thermomètre, on va changer de méthode de calcul, on va changer de concept pour mesurer le chômage au sens du BIT. Et comme par hasard, le nouveau concept qu'on va utiliser, Il permet de faire baisser le taux de chômage au sens du BIT d'environ un point. Et on va se retrouver, comme par hasard, en mélangeant le changement de source et le changement de concept, on va se retrouver avec un taux de chômage. Le rapport annonce déjà un taux de chômage de 8,2%, donc finalement pratiquement le même que celui qui est aujourd'hui publié, qui est de 8%. Et circuler, il n'y a rien à voir. Finalement, la proposition du rapport, et qui a immédiatement, Julie Hermion y reviendra, a été reprise par l'INSEE et la DARES, consiste à dire on va à la fois changer l'instrument et changer les concepts et la manière de mesurer, ce qui fait qu'on va s'éviter de reconnaître que le taux de chômage est aujourd'hui et depuis plusieurs mois, depuis 2 ans en fait, considérablement sous-évalué. Donc il nous semble que ça, c'est pas admissible, c'est-à-dire que ça, c'est un rideau de fumée, c'est un escamotage, que la procédure, la décision correcte, selon nous, ce serait que l'INSEE et la DARES reconnaissent qu'aujourd'hui, le taux de chômage au sens du BIT, tel qu'il est mesuré par l'enquête emploi, à méthodologie constante, il est de 9%. Ça, c'est le résultat, d'ailleurs, qui est donné dans le rapport de l'enquête emploi trimestrielle au deuxième trimestre 2007, 9% taux de chômage. Vous avez la courbe d'ailleurs qui est tout à fait intéressante. C'est la première fois que l'INSEE publie cette courbe. On voit le taux de chômage au sens du BIT depuis. C'est ça.
C'est
pas le taux de chômage. Non, alors malheureusement, il n'y a pas de courbe avec le taux de chômage. C'est pas tout à fait un hasard. Il n'y a pas de courbe avec le taux de chômage. Il y a une courbe avec le nombre de chômeurs au sens du BIT, mais. Qui est la courbe, la figure 1 du rapport, où on voit bien que le taux de chômage mesuré par l'enquête emploi n'a commencé à baisser qu'un an après le taux de chômage, les données de l'ANP. C'est-à-dire à la mi-2006, alors que les données de l'ANPE baissaient depuis la mi-2005. Donc il nous semble que le rapport et le système statistique devraient. D'abord, reconnaître et publier le taux de chômage au sens du BIT à méthodologie constante, sans changer le concept, sans changer la manière de mesurer, la manière de compter le chômage BIT. Et ça, ça donne 9%, donc je répète, au deuxième trimestre 2007. C'est le dernier chiffre fiable dont on dispose aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir, à notre avis, quel est le bon taux de chômage aujourd'hui, la seule statistique fiable qu'on ait, c'est le 9% du deuxième trimestre 2007. L'INSEE et la DARES devraient continuer à publier ce taux de chômage pendant les mois et les trimestres qui viennent. Et puis s'il faut changer la méthodologie, s'il faut changer les concepts, eh bien qu'on se donne le temps d'en discuter. Il y a un cadre pour cela, c'est le CNIS, le Conseil National de l'Information Statistique. Il n'y a aucune urgence à changer les concepts. Au contraire, ça ne pourrait être perçu par l'opinion publique et par les observateurs que comme une manipulation. Alors ça, c'est le point le plus important, hein, c'est il faut pas que à notre sens, il faut pas que il faut pour restaurer la crédibilité de la statistique du chômage, il faut pas donner dans la manipulation en changeant le concept en même temps qu'on change l'instrument de mesure. Deuxième réserve par rapport au rapport, c'est l'idée que. Donc, parmi les propositions qui sont faites par le rapport, c'est l'idée que, en s'alignant sur le mode de calcul d'Eurostat, on ne considérera plus comme demandeur d'emploi au sens, comme chômeur au sens du BIT, les chômeurs, les personnes qui répondent à l'enquête, qu'elles sont inscrites à l'NPE, mais qui ne citent pas d'autres modes de recherche d'emploi que le fait d'avoir été inscrit à l'NPE. Et ça, l'adoption de cette convention va permettre de faire baisser d'un point le taux de chômage au sens du BIT. Donc Jean-Pierre reviendra sur cette décision, mais ça nous semble tout à fait contestable et tout à fait injustifiable aujourd'hui. Euh, Alors, une autre chose qui est préoccupante dans ce rapport, c'est qu'en fait, si on le lit attentivement, les analyses... Alors, les conclusions du rapport nous conviennent pour les deux conclusions que j'ai évoquées tout à l'heure, mais les analyses qui sont faites dans le rapport sont complètement contradictoires avec ces conclusions. Qu'est-ce que dit le rapport ? Alors, je cite. Le rapport dit que les données ANPE demeurent un indicateur indispensable au suivi conjoncturel du chômage. Ça, c'est répété plusieurs fois. Les données ANPE demeurent un indicateur indispensable au suivi conjoncturel du chômage. C'est faux. Le rapport, les chiffres qui sont présentés dans le rapport montrent que c'est faux. Les données d'ANPE ne sont pas un outil pertinent de suivi conjoncturel, selon nous, et selon les chiffres qui sont présentés dans le rapport. Donc, on se demande pourquoi les rapporteurs ont maintenu l'idée que les données ANPE avaient un sens dans l'analyse conjoncturelle du chômage. Et deuxième prise de position tout aussi surprenante, c'est que l'enquête emploi n'est pas fiable pour mesurer les évolutions conjoncturelles du chômage. Et le rapport insiste à de nombreuses reprises sur le manque de fiabilité de l'enquête emploi, donc de l'enquête de l'INSEE, pour mesurer les évolutions conjoncturelles du marché du travail. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on, dans les conclusions, il recommande d'abandonner les statistiques de l'ANPE pour l'analyse conjoncturelle et de se caler et d'utiliser les données de l'enquête emploi. Il y a une contradiction totale entre l'analyse et les conclusions. Et là, vraiment, on peut s'interroger sur la cohérence, du rapport. Tout se passe comme si... politiquement, il n'était plus possible, il fallait changer. Il n'était plus possible de maintenir le système actuel. Mais on veut continuer manifestement à instiller le doute sur la qualité et la possibilité d'utiliser l'enquête emploi d'INSEE pour mesurer le chômage de façon conjoncturelle. On dresse un portrait caricatural des défauts de l'enquête emploi qui serait biaisé de multiples façons. Des aléas considérables, des résultats aberrants, etc. Donc on se demande comment on va pouvoir refonder un système d'observation conjoncturelle du chômage et de l'emploi avec un outil aussi médiocre, aussi imparfait que celui qui est décrit. Alors, il nous semble que le portrait qui est décrit l'analyse qui est faite de l'enquête emploi dans le rapport est totalement unilatérale, très caricaturale, que cette enquête montre globalement, à part deux trimestres qu'on peut repérer comme des trimestres où il y a eu effectivement des aléas statistiques depuis 2002, c'est deux trimestres combien il y a eu de trimestres depuis 2002, il y en a eu il y a 5 ans.
Une vingtaine, tout à fait.
Une vingtaine, oui.
18.
Pour l'essentiel, l'enquête emploi a plutôt bien retracé les évolutions trimestrielles de l'emploi et du chômage. Et s'il y a eu des problèmes, c'est surtout à partir de 2005, où là, il y a eu effectivement une divergence entre l'enquête emploi et les sources administratives de l'ANPE. Mais là, c'est clairement... l'erreur était clairement du côté de l'ANPE et pas du côté de l'enquête emploi. Donc... il nous semble que là, il y a un vrai problème d'analyse et une contradiction entre l'analyse et les recommandations. C'est préoccupant pour l'avenir, cette contradiction, parce que ça ouvre la porte, et le rapport le fait très clairement, à des opérations d'amélioration, entre guillemets, permanente de l'enquête emploi, de correction des biais. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est que la route qui est ouverte par ce rapport, c'est des initiatives permanentes pour améliorer, entre guillemets, la méthodologie de l'enquête emploi, redresser les biais, améliorer les taux de réponse, etc., etc. Or, il nous semble que si on fait ça, c'est-à-dire si on touche sans arrêt à la méthodologie de l'enquête sous prétexte de l'améliorer, on va introduire sans arrêt des perturbations dans la mesure du chômage. Et on aura une enquête inutilisable pour mesurer les évolutions du chômage. Alors on peut prendre une analogie, hein, c'est un petit peu comme si... L'enquête emploi, comme toute enquête, a des imperfections, a des biais. Il y a des gens qui ne répondent pas. Les gens qui ne répondent pas, ils ont pas les mêmes caractéristiques que les gens qui répondent. Toutes les enquêtes, c'est comme ça. Donc, ça, c'est pas spécifique à l'enquête emploi. Ce qui compte, c'est que ces biais, c'est-à-dire ces différences entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas, soient à peu près constants dans le temps, de façon à ce que les évolutions qu'on mesure avec cette enquête ne soient pas biaisées, que les évolutions soient fiables. Alors ça, c'est manifestement, c'est le cas, et personne ne dit le contraire. Personne ne dit que la qualité de l'enquête se dégrade. Le rapport dit même le contraire, la qualité est constante. Alors, je prends une analogie. C'est un peu comme si un mécanicien voyait qu'un moteur, qu'il y a du cambouis sur un moteur. Le moteur tourne, mais il y a du cambouis sur le moteur, donc on va le démonter pour voir pourquoi il y a du cambouis. En fait, le moteur, il y a du cambouis. Ça n'empêche pas un moteur de fonctionner. La difficulté, c'est quand il y a des fuites. Hein, c'est-à-dire quand il y a une dérive de la qualité et quand quand les biais de l'enquête ne sont pas constants. Là, effectivement, il y a des problèmes qui peuvent devenir importants. C'est pour ça que c'est important, effectivement, de mesurer les biais d'une enquête pour vérifier qu'ils sont à peu près constants. Mais il ne faut pas essayer... il ne faut pas toucher en permanence à la méthodologie de l'enquête. Sinon, on rend l'enquête tout à fait inutilisable pour l'analyse conjoncturelle. Alors, parce que pour caricaturer, en améliorant sans cesse, entre guillemets, en améliorant sans cesse les méthodologies de l'enquête, on peut faire 2, 3 ou 4 fois le même coup que celui qui est annoncé là, changer la méthodologie, changer le mode de calcul et faire baisser comme ça à chaque fois de 0,1, 0,2, 0,5 points le taux de chômage. Comme on nous a annoncé un taux de chômage de 5% à la fin du quinquennat, une manière assez rapide de contribuer, assez efficace de contribuer à cet objectif, c'est d'introduire toutes ces améliorations, entre guillemets, dans l'enquête emploi, au fil des ans. Donc je répète, aucune enquête n'est parfaite. L'enquête emploi a ses défauts, a ses biais. Ces biais sont maîtrisés, sont d'ampleur constante. Ne cherchons pas à nous approcher d'une perfection illusoire. Il n'y a pas de perfection en statistique. Ce qui est important, c'est de connaître le degré d'imperfection et qu'il soit constant, qu'il ne varie pas avec le temps. En revanche, sur le plan technique, une des recommandations du rapport qui nous paraît tout à fait bonne, c'est l'idée qu'il faut doubler la taille de l'échantillon de l'enquête emploi. Ça, c'est effectivement une chose qui serait très importante à faire, notamment parce que ça permettrait d'améliorer la précision des estimations et aussi parce que ça permettrait de donner des estimations régionales, ce qui est demandé par les acteurs régionaux depuis pas mal de temps, notamment par les conseils régionaux, et ça serait certainement une amélioration importante qui demande un effort financier de la part des pouvoirs publics, mais un effort financier assez minime par rapport au gain en qualité et en crédibilité qui en résulterait pour le système statistique concernant le chômage et l'emploi. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire sur l'analyse du rapport dans un premier temps. Donc je répète, oui à la suspension du taux de chômage mensuel BIT calé sur les données de la NPE, oui à la publication trimestrielle des données de l'enquête emploi, c'est ce que nous demandions, mais non à toute manipulation qui consisterait en même temps qu'on change la source de référence, c'est-à-dire qu'on se cale uniquement sur l'enquête emploi, à modifier le mode de calcul du taux de chômage. Ça, ce serait véritablement un rideau de fumée, une manipulation qui nous semble inadmissible et qui nous semble, si elle était réalisée, contribuerait à aggraver encore la crise et la crédibilité du système statistique concernant la mesure du chômage et de l'emploi. Alors là, les directions de l'INSEE et la DARES, je passe la parole à Julie, ont annoncé immédiatement la prise en compte opérationnel et des conclusions, ce qui nous semble tout à fait précipité.
Donc, bonjour, moi je suis de la CGT de l'INSEE. Je vais pas revenir effectivement sur ce que Thomas a dit sur les points qui nous semblent positifs, notamment sur la périodicité de la publication des résultats de l'enquête, et aussi sur la publication adjointe à cela des intervalles de confiance qui donnent une idée de la façon dont on peut exploiter les résultats de l'enquête. Nous, ce qu'on a jugé quand même assez défavorable sur la forme, c'est quand même sur la forme, ça empêche un petit peu le débat, c'est que la décision qu'a prise l'INSEE conjointement à la DARES a laissé place à aucun débat. C'est-à-dire que le rapport qui était prévu depuis, qui était entre les inspecteurs des finances et des affaires sociales, qui travaillaient sur ce dossier depuis près de 3 mois, on annonçait la publication du dossier d'un jour à l'autre. On savait bien que le dossier, dans les derniers 10 jours, allait être rendu au gouvernement le 24, sans avoir possibilité d'ailleurs de savoir s'il serait rendu public tout, ou pas tout de suite, alors que bon, la semaine d'avant, on a même pu annoncer quand même que la publication aurait lieu quasiment dans la foulée. D'une certaine manière, la décision de l'INSEE qui a été prise, après on va revenir, enfin, je vais revenir sur quelles ont été ces décisions-là, la décision de l'INSEE et de la DARES d'adopter des changements tout de suite, le jour même de la publication du rapport, d'une certaine manière, rend la lecture du rapport presque inutile, puisque, d'une certaine manière, elle n'ouvre pas le débat qu'un rapport de ce genre est censé pouvoir ouvrir, à la fois par les spécialistes, dans tout, quelques cadres que ce soit par les associations de chômeurs qui sont quand même qui sont quand même concernées, et d'une certaine manière aussi, et je pense que Pierre Concialdi y reviendra plus tard, claquer un petit peu le beignet au groupe de travail du CNIS qui est censé travailler aussi sur ça, pas seulement sur le chiffre du chômage et de sa méthodologie, mais aussi sur ça. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on regrette nous là énormément, c'est la méthode. Autant l'INSEE a pu gérer pas très bien le dossier de la prise de décision de ne pas publier le recalage en début d'année 2007, mais elle avait quand même pris une décision qui, nous semble-t-il, était positive, c'était de rendre public les problèmes méthodologiques qu'il avait rencontrés le 8 mars dans une formation du Conseil national de l'information statistique et, en gros, laisser la porte ouverte au débat et laisser spécialistes de tous bords, pas seulement spécialistes statistiques, prendre une part au débat. Là, ce qui s'est passé, c'est que le rapport est sorti, mais on n'a même pas eu le temps de s'intéresser à son contenu. Il y a beaucoup à dire, je pense qu'on aura l'occasion de redire, de faire des critiques. Et je pense que les statisticiens qui connaissent bien le sujet ont quand même des critiques à émettre sur l'analyse et sur les conclusions du rapport. Et on en a aussi, nous, de manière syndicale, par ailleurs. Donc, le fait de prendre cette décision le jour même, au moment même où le rapport est publié, nous semble quand même un étouffoir au débat. Et bon, ensuite, pour revenir un petit peu, mais Thomas l'a déjà pas mal exposé, parmi les décisions qui ont été prises, donc, de publier trimestriellement les résultats de l'enquête emploi, il y a quand même une décision forte qui est de ne plus lier, comme c'était le cas auparavant, les deux sources qui permettaient d'avoir des indications sur le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'emploi et sur le taux de chômage, qui sont des décisions fortes, mais qui sont brouillées, qui sont mélangées à d'autres décisions, qui sont des décisions qui changent le mode de calcul du taux de chômage. Et le souci qui se pose à nous, c'est que ces changements méthodologiques, il va y en avoir d'autres. L'enquête emploi, sans doute des améliorations vont être apportées. Et déjà, l'INSEE, la direction de l'INSEE l'annonce, que ce soit par rapport aux résultats des enquêtes de recensement qui donnent des éléments structurels sur l'emploi, l'activité, le chômage, que ce soit sur des méthodes nouvelles qui permettent de changer certaines pondérations, on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir des changements à venir, dans les mois à venir, sur la méthode de calcul du taux. Il nous semble qu'il aurait été plus sage, encore une fois, de laisser le débat par rapport aux conclusions du groupe de travail, de laisser le débat par rapport aux conclusions du rapport qui a été là, d'amener le débat et d'apporter, de laisser le groupe de travail du CNIS s'enrichir de ce débat et avoir éventuellement des propositions contradictoires. Là, le fait est qu'on s'annonce vers une période où il va y avoir des changements méthodologiques, pas fréquents, mais il y en aura plusieurs qui vont brouiller complètement le message, qui ne permettront pas d'avoir un taux de chômage calculé tout le temps avec la même méthode. C'est aussi pour ça que, même si on demande d'abord que les décisions d'INSEE-DARES ne prennent pas effet, on demande aussi d'être sûr que l'INSEE et la DARES pourront fournir des séries longues, c'est-à-dire continuer pendant un certain temps à avoir le même type de calcul qui était présent auparavant, pour avoir une idée un petit peu plus large sur une période un peu plus longue de l'évolution du taux de chômage tel qu'il était calculé auparavant, d'avoir à l'inverse, au moment où le taux de chômage aura changé de méthode, et on n'espère pas de la façon dont, pas de la manière, pas dans les délais, pas dans le calendrier qui sont annoncés, mais si le taux de chômage change de définition, qu'on puisse avoir des séries rétropolées, c'est-à-dire des séries qui permettent aussi de suivre sur une durée longue l'évolution du chiffre, et qui permettent d'avoir, non pas d'être trimballé au gré des changements de définition, mais d'avoir un peu d'avoir l'impression de comprendre et de maîtriser ce que signifie ce chiffre. Donc, parmi les changements méthodologiques qui sont importants, on peut quand même signaler que donc il y a la définition, l'INSEE a annoncé, après avoir pendant des années bataillé pour conserver une définition propre de ce que c'est que ce qu'on estime pour un demandeur d'emploi être une recherche active d'emploi, a décidé de s'aligner sur la définition d'Eurostat, ce qui va impliquer une évolution du taux qui est relativement importante. Rien ne justifiait de prendre cette décision aussi rapidement dans la période, là, en tout cas au mois de novembre. Simmel, ce que l'INSEE, là, par contre, avait annoncé dès le mois de mars, dès le 8 mars, lors de la formation du groupe de travail du CNIS sur emploi-revenu, c'est-à-dire des études complémentaires méthodologiques sur l'enquête emploi, améliorée par une enquête non répondante, ce qu'on appelle une enquête qui est complémentaire, qui est faite auprès des gens qui n'ont pas répondu à l'enquête pour savoir comment ils répondraient, quelle structure, si leur structure est différente de celle des répondants, comment du coup améliorer la réponse. Bon, je pense qu'on reviendra un petit peu plus longuement sur le fait que statistiquement c'est assez étrange de se baser sur une enquête qui n'offre que 30% de taux de réponse. On sait que quand une enquête n'offre que 30% de taux de réponse, elle-même, elle a un fort biais et que l'exploiter telle qu'elle n'est pas... c'est une décision avec des hypothèses qui sont fortes. Quand au point de vue de statisticien, on parle d'hypothèses fortes quand on prend la décision d'utiliser tel résultat. Et encore une fois... L'enquête nous répondant. Qui va donc ça, c'était quelque chose que l'INSEE avait déjà annoncé, c'est-à-dire qu'il essayait, avec cette enquête qui avait déjà été réalisée il y a 2 ans, et qui n'avait pas été utilisée à l'époque, donc cette enquête-là a été lancée en début d'année, en début 2007, et elle n'a pas fini complètement d'être exploitée, mais l'INSEE annonce d'ores et déjà qu'il sera en mesure de faire certains redressements par rapport aux résultats de cette enquête. Il annonce aussi quelques changements méthodologiques par rapport aux pondérations, ce qui est indiqué dans son communiqué de presse. Vraisemblablement, des pondérations par rapport justement à la façon dont on affecte les non-répondants selon qu'ils sont d'une région ou d'une autre. C'est visiblement pas pareil selon qu'on en est de France ou pas, ça affecte la réponse. Donc là aussi, l'INSEE va proposer des méthodes qui vont infléchir, on va dire, le taux final. Donc, ce qu'on en pense, nous, c'est que réfléchir à ces changements méthodologiques, soit, mais brouiller à la fois des changements méthodologiques, des changements de l'utilisation de définition à un moment pareil et à un moment où on annonce annoncer ces décisions de manière complètement unilatérale, alors que le problème est aussi actuellement qu'il n'y a pas assez de réflexion commune entre les différents acteurs concernés par le domaine, ça ne nous semble pas une décision une décision favorable. Donc, encore une fois, il y a un groupe de travail du Conseil national de l'information statistique qui travaille sur ces sujets-là. Il aurait été plus sage de laisser le groupe de travail analyser le rapport des inspecteurs généraux des finances et des affaires sociales et de pouvoir analyser et donc reprendre ce rapport avec des yeux avertis, avec des yeux de techniciens statisticiens, avec des yeux de techniciens qui connaissent bien la façon dont les demandeurs d'emploi sont gérés à la fois par l'agence, mais comment ils répondent à l'enquête emploi. Et aurait donc permis un regard beaucoup plus éclairé, et non pas un regard qui reprend, on va dire, du but en blanc, un rapport qui est aussi critiquable, qu'on doit analyser, qui n'est pas la vérité vraie sur l'enquête emploi, sur les chiffres de l'NPE, etc. Voilà.
Jean-Pierre. Oui, donc Jean-Pierre Galantaine du Mouvement national des chômeurs et des précaires, MNCP. Alors nous, notre vision, c'est qu'on est en train de complètement noyer le poisson. C'est un sujet complexe, relativement flou, et qu'on trouve nous peu accessible, alors pour nous, pourtant qui baignons dedans toute la journée et à longueur de temps, et pour l'opinion publique encore plus. Nous on trouve qu'on s'y perd vraiment. Bon, heureusement qu'on travaille avec un CDC et des statisticiens, des chercheurs qui permettent un certain éclairage sur tout ça, mais enfin c'est très dur de communiquer autour de ça. Par exemple, on s'est rendu compte en travaillant ensemble que le nouveau mode de publication, ce que préconise le rapport, change la méthodologie, donc ce qui vient d'être dit. Et auparavant, le fait d'être inscrit à l'NPE, tout simplement inscrit, était considéré comme un acte positif de recherche d'emploi. Aujourd'hui, cette donnée, en se basant sur Eurostat, ne le sera plus. Donc on exclut à nouveau 100 000 personnes du chômage, des gens inscrits que l'on considère qu'ils ne font pas d'autres actes positifs de recherche d'emploi pour différentes raisons. Donc ça, c'est une chose qu'on constate, moins 100 000 à nouveau dans les statistiques. Donc très complexe à comprendre de notre fenêtre. Donc aujourd'hui, le fait de s'inscrire à l'NPE ne sera plus un acte positif de recherche d'emploi, au sens du BIT. Donc on change à nouveau la donne. Enfin, ça reste très complexe. On a expliqué comment on voit les changements à l'heure actuelle, mais c'est complexe et peu accessible à l'opinion publique, il me semble. On aura beau expliquer les choses de la meilleure façon, quand je dis qu'on noie le poisson, c'est vraiment la vision qu'on en a, nous, aujourd'hui, en tant qu'association de chômeurs. Puis, ce qu'on veut dire surtout, c'est que derrière les chiffres, il y a des personnes. Et, alors, nous, c'est une approche de terrain, hein, complètement de terrain, mais... aujourd'hui, les radiations, les gens qui sortent des listes, nous on ne travaille que de là-dessus aujourd'hui. On ne fait qu'accompagner des gens. Tous les jours, on a des coups de fil de gens radiés qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de quoi s'acheter de la nourriture, tout simplement. Hein, des appels à l'aide à longueur de journée dans toutes les associations. Et cette vérité-là, nous on cherche vraiment à ce qu'il y ait des indicateurs objectifs pour que les choses soient vues objectivement et qu'on trouve les solutions face à ça, parce que c'est quand même un scandale par rapport à la vie des gens, par rapport à les gens qui sont radiés 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui sont radiés définitivement. C'est des familles entières qui n'ont plus de revenus, quoi. C'est... Dans ce sens-là, il nous semble que c'est vraiment scandaleux la façon dont aujourd'hui est traitée la question du chômage. Beaucoup de gens, par exemple, se font radier pour absence à rendez-vous. On a porté plainte avec plusieurs personnes auprès des tribunaux administratifs. L'absence à un rendez-vous ne peut justifier d'une radiation. Ça fait jurisprudence aujourd'hui. Donc tous les gens qui souhaitent aller devant les tribunaux administratifs gagnent à 100%. Sauf que ça se fait là où on a des associations présentes sur les territoires, c'est-à-dire dans très peu de villes. Donc le chômeur lambda, dans une ville où il n'y a pas d'association pour défendre ses droits, et eh ben, faire la démarche d'aller devant un tribunal administratif, c'est pas donné à tout le monde. Exemple de l'importance aussi d'avoir des associations pour défendre les droits des chômeurs là-dessus. La présomption d'innocence aussi, on est beaucoup là-dessus. Si on fait un délit, on est jugé et après, éventuellement, on a une sanction. Le chômeur, on le sanctionne d'abord et après, éventuellement, il a le droit d'aller se défendre devant un tribunal, devant la direction du travail pour voilà, enfin, la présomption d'innocence pas respectée pour les chômeurs, enfin, on est vraiment une catégorie de... à part, quoi. En plus, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. L'offre valable d'emploi, on parle beaucoup aujourd'hui de l'offre valable d'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas cadré légalement. c'est complètement aléatoire. Qu'est-ce qu'une offre valable d'emploi? On a eu des témoignages incroyables. Hein. Une femme qui accepte un travail à 35 km de chez elle, parce que si elle ne l'accepte pas, elle est radiée, elle n'a pas le permis, elle a un gamin de 8 mois, elle ne va pas pouvoir y aller dans son travail. Elle a accepté parce que sinon elle se faisait radier. Mais de toute façon, elle va se faire radier, elle ne pourra pas y aller à ce travail. Enfin, des choses incroyables qui continuent à exister. Alors effectivement, le chômage à 5%, on va y arriver, que ce soit par la méthodologie, que ce soit par les pratiques. Et nous, ça nous inquiète beaucoup et forcément, on est beaucoup là-dessus, quoi. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de la visibilité, mais c'est aussi que le groupe du travail du CNIS, justement, qui est en train de travailler là-dessus, qui devait rendre diligenté par le gouvernement, qui doit rendre ses résultats au printemps 2008. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devient ce groupe-là? Est-ce que c'est caduque ce qu'on est en train de faire? Nous, c'est une des premières fois qu'on a l'occasion de participer à un groupe comme ça. On estimait avoir une certaine reconnaissance et notre mot à dire là-dessus. Ça nous pose un gros problème. Donc c'est une approche de terrain, hein, mais qui me semble aussi importante.
Je vais peut-être terminer sur effectivement qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite. Alors, mais ça va faire. Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Jean-Pierre, parce que justement, et ce qu'a dit Julie, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir un rapport et ce que nous avait. Donc il y a un groupe de travail du CNIS, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'est constitué depuis le mois de juin. Et qui est présidé par Jean-Baptiste de Foucault, sur l'ensemble des questions de chômage, d'indicateurs en matière de chômage, d'emploi, etc. Enfin, je ne reprends pas l'intitulé exact. Ce que nous a dit le président, c'était que dès que le rapport, justement, qui était en préparation des deux inspections générales serait publié, on auditionnerait donc les rapporteurs. Ce qui montre bien, d'une part, qu'il est sans doute prématuré de prendre des décisions, puisque bon, il y a un groupe du CNIS qui est au-delà du cercle des techniciens et des experts, je le rappelle, rassemble l'ensemble des acteurs syndicaux, sociaux, professionnels intéressés par ces questions. Donc encore une fois, le chômage, c'est pas une question d'expertise statistique, c'est un peu ce qu'on peut penser à la lecture du rapport, quand même, à ce qu'a essayé d'expliquer Thomas, c'est-à-dire que finalement, grosso modo, le coupable, c'est l'enquête emploi, donc on la sort, c'est pas notre point de vue. Et donc là, il y a une question qui, encore une fois, je voudrais insister là-dessus, qui vient d'illustrer Jean-Pierre, c'est comment on applique, par exemple, la définition européenne. Parce qu'on peut, comprendre que finalement, c'est pas absurde de retenir la même définition. Hein. Alors, soyons clairs, Eurostat et l'INSEE ont la même définition au sens conceptuel. Simplement, comment la rendre opérationnelle, et l'exemple de la recherche d'emploi actif d'emploi est un bon exemple, parce que l'inscription à l'agence de l'emploi, bah, ça n'a pas forcément la même signification en France, en Allemagne, en Suède, etc. Alors, qu'est-ce que fait Eurostat? Il considère que l'inscription à ces agences d'emploi n'est pas un acte positif de recherche. Bon. On ne va pas poser la question pour les autres pays, mais regardons ce qui se passe en France. En France, depuis le milieu de l'année 2005, on a ce qu'on appelle un suivi mensuel personnalisé. Il y a une convocation mensuelle des chômeurs. Si les chômeurs ne répondent pas à cette convocation, ils sont radiés. Et durant cette convocation, on est censé faire le point, proposer, discuter avec chaque chômeur. Dans ce contexte, l'inscription à la NPE est bien un acte positif. Et je crois que c'est une question qu'on discutera, en tout cas, à la prochaine réunion du groupe. Et donc, s'il y a quelque chose à changer de ce côté-là, c'est plutôt de la façon dont Eurostat rend opérationnel ce critère dans le cas de la France. Je ne parle pas des autres pays. Et je crois que c'est très révélateur des questions qu'il y a derrière la mesure statistique du chômage, qui, encore une fois, n'est pas une question qui est limitée au cercle des experts, mais qui devrait faire l'objet d'un débat, notamment dans le cadre du groupe du CNIS. Alors, deuxième remarque, la crise qu'on a eue sur les chiffres du chômage, elle est née, on a souvent eu l'occasion de le dire, de la focalisation sur un chiffre unique. D'une certaine façon, avec ces recommandations là, on n'en sort pas finalement, puisque bon, on a la publication trimestrielle du taux de chômage par l'INSEE, les statistiques qui vont rester mensuelles de la NPE, mais on reste sur bon, l'approche uniquement du chômage. Ce que nous avions demandé, ce que le collectif avait demandé dans le cadre du groupe de travail, c'était que le mandat du groupe de travail du CNIS fasse une place importante à la définition d'indicateurs complémentaires, comme on l'avait déjà préconisé, notamment fondés sur les concepts qui ont été élaborés par le BIT, à savoir notamment le concept de sous-emploi et d'emploi inadéquat qu'on avait essayé d'illustrer dans un dans une précédente note. Alors, ce groupe de travail a commencé à fonctionner. Alors, on ne va pas, bien sûr, anticiper sur ses conclusions, faire de procès d'intention. Mais, et puis, on a des avis qui peuvent être partagés, même en tant que participant au groupe. Moi, je pense qu'on peut avoir au moins une pointe de scepticisme pour deux raisons. La première, c'est qu'il a fallu batailler dur pour essayer... de faire entrer dans le mandat officiel du groupe cette question des indicateurs complémentaires, justement. Et je dirais qu'elle y est rentrée vraiment par le petit bout des mots, et qu'on... Moi, je n'ai... Enfin, sincèrement, je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse aborder cette question de façon sereine. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la priorité, c'est ce qu'on nous a dit, quand même. Donc ça rend aussi sceptique. Ce n'est pas la priorité du groupe de travail. Donc, si la question, et c'est notre analyse, si le problème qu'on a connu ces derniers mois est lié à cette focalisation, eh ben, on voit qu'en tout cas dans l'esprit du président du groupe de travail du CNIS, ce n'est pas la priorité d'y apporter une réponse, puisque on reste sur une approche qui est pour l'instant essentiellement fondée sur le chômage. Et deuxième raison de scepticisme, c'est que jusqu'à présent, je dirais qu'on n'a pas beaucoup avancé très concrètement sur à la fois la question du chômage et l'emploi inadéquat. Bon, dernière raison qui malgré tout, enfin, personnellement en tout cas, me rend sceptique, c'est que l'avantage de ces réunions de groupe, c'est que ça réunit des acteurs très divers. Et là, c'est aussi normalement public, c'est-à-dire qu'on a accès au compte-rendu sur le site de l'INSEE, à la rubrique CNIS, vous avez accès au débat des groupes de travail. Et là, de façon tout à fait inhabituelle, parce qu'en tout cas, ce n'est pas l'expérience que j'en ai dans d'autres groupes de travail, les contenus de travail sont devenus anonymes, ce qui fait qu'on n'a aucune idée de la teneur réelle des débats pourtant vif, parfois, qui se noue dans ce groupe de travail. Donc c'est qu'un membre dit ceci, un autre membre dit cela. Quelle peut être la portée de ce débat? Est-ce que ça recouvre... Bon, ça reste anonyme, donc je suis personnellement très, au moins frustré de la méthode de travail jusqu'à présent, ce qui peut laisser sceptique quant à ce qui pourra ressortir de ce groupe. Et encore une fois, nous, ce que nous espérons, dernier point, il faut savoir que ce groupe, normalement, doit rendre un pré-rapport, des premières propositions, doit en faire état devant le bureau du CNIS à la fin novembre. Or, à cette échéance-là, il est certain, compte tenu du calendrier et de ce qu'on nous a dit des thèmes de travail du groupe, que nous n'aurons pas abordé la question des indicateurs complémentaires. Donc, on va avoir... il faudra rester vigilant sur le message qui sera délivré par ce groupe. Et en ce qui concerne la CDC, on sera notamment attentif à ce que tout ce qu'on vous a dit sur les conclusions qui ont été tirées, sans doute hâtivement, en tout cas sans débat, là je pense que c'est grave quand même, parce que soit reprise et portée, on l'espère, par le président du groupe de travail devant les instances du CNIS.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions?
Quelle est la valeur que vous pouvez accorder au chiffre qui va être publié dans le...
Je peux peut-être répondre un peu à cette question. Je suis donc Joseph Roman du CNU-NPE, FSU. Je pense qu'il y a un contresens sur la signification des chiffres de la NPE. C'est c'est-à-dire que ce sont, par définition, par essence, le sous-produit, je parle des statistiques mensuelles des deux FM, un sous-produit de l'activité de la NPE. Et donc, ce n'est pas du tout des statistiques, un outil statistique qui aurait été construit pour mesurer la réalité économique du chômage. C'est le sous-produit de l'activité, c'est donc un indicateur essentiellement administratif. Et on a vu d'ailleurs cette dérive donc, qu'on a constatée sur le chiffre ANPE est fortement liée aux méthodes de travail et de rapport entre l'ANPE et les demandeurs d'emploi. On a parlé en particulier du problème des radiations. Et ce qu'on peut penser, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite incise, on peut penser que la fusion UNEDIC-ANPE qui est annoncée dans les jours prochains, puisque vous savez que le président a donné à Christine Lagarde l'injonction de sortir dans les 15 jours, maintenant il reste une dizaine de jours ou quelques jours, le projet de la fusion UNEDIC-ANPE dans son caractère institutionnel, puisque les statistiques ANPE sont fortement liées au caractère institutionnel et sous-produit de cette institution, on peut dire déjà avec certitude que les chiffres qui vont sortir de cet organisme fusionné seront très impactés par le type de mécano institutionnel qui sera mis en place. Et comme le sens politique qu'on donne à cette fusion, c'est de rattacher de soumettre la logique de suivi des demandeurs d'emploi à la logique économique, on pourrait dire, de rentabilité économique de l'UNEDIC, ça va accentuer, nous on l'analyse en tout cas comme ça, la pression sur les demandeurs d'emploi et donc amplifier encore cette dérive artificielle à la baisse. Alors il y a une phrase de François Fillon qui expliquait du temps où il n'était que ministre du Travail à l'époque, il avait dit « La main qui indemnise doit être la main qui place et qui contrôle ». Et je pense qu'on pourrait ajouter, sans trahir sa pensée maintenant, ce doit être aussi la main qui comptabilise, qui va comptabiliser et qui va mettre en scène les résultats, qui va mettre en scène la communication sur les chiffres du chômage.
Là, je pense que le rôle des médias est très important dans cette affaire. Il faut qu'on arrête de focaliser le débat sur ce chiffre mensuel qui n'a vraiment plus aucun sens du point de vue de l'analyse conjoncturelle. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, vous, ce soir, mais je pense qu'il y a vraiment un tournant à prendre quoi, sur le traitement médiatique des statistiques de l'ANPE. Le rapport IGF-IGAS officialise le fait que ces statistiques ne sont plus utilisables pour calculer un taux de chômage mensuel au sens du BIT. Ça veut dire quand même quelque chose de lourd. Hein. Ça veut dire que ces données sont reconnues comme non pertinentes pour l'analyse conjoncturelle du marché du travail, malgré ce qui est dit, malgré le contraire, malgré que le rapport dise le contraire à plusieurs reprises, la décision veut bien dire ça. Donc je pense qu'il faut arrêter de commenter ce chiffre comme s'il reflétait l'évolution du chômage. Et ça va être, comme le dit Joseph, ça va être de plus en plus vrai avec ce chiffre va être de plus en plus dénué de sens avec la fusion annoncée UNEDIC et ANPE. Alors je dirais que le pire, ce serait qu'on se retrouve dans une situation où on continue à commenter par une espèce de réflexe pavlovien, on continue à commenter un chiffre qui n'a plus aucun sens. Ensuite, on va avoir un chiffre trimestriel qui va sortir qui ne donnera pas les mêmes résultats. Plus personne n'y comprendra rien. Et là, on va se retrouver dans une situation totalement chaotique et avec une aggravation de la perte de crédibilité, ce qui est quand même très préoccupant dans la situation actuelle, c'est la perte de crédibilité du système statistique public. Avec cette affaire des des chiffres du chômage. Et là, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que les décisions annoncées vont, à notre sens, accélérer cette perte de crédibilité du système statistique. Hein. On voit. Enfin,
est-ce qu'on peut envisager l'ouverture de l'autoroute ?
Bon, il n'y a pas de... L'ouverture de quoi ? Du système statistique ? C'est pas rentable.
Ça serait financé par qui ?
Ce serait les journaux qui achèteraient le taux de chômage, oui. comme on achète un sondage.
Non, parce qu'il y a des questions intéressantes qui ont été posées sur le fait que pour avoir un intervalle de confiance qui permette un résultat plus fin en termes de chômage issu de l'enquête emploi, il fallait doubler l'échantillon. Alors c'est vrai qu'il faut avoir un échantillon important pour avoir une précision plus importante aussi. Christine Lagarde a parlé d'une manière très, très ouverte sur ces choses-là. Pour autant, on sait que les budgets des directions, l'INSEE qui est une direction du ministère de la Garde, n'a pas reçu pour l'instant, et on ne sait pas. A priori, il y a une grande prudence de la part de l'INSEE pour répondre à ce... Alors, pas à l'élargissement de l'échantillon, mais au doublement de l'échantillon, ça c'est sûr, parce que, a priori, il n'y a aucun budget débloqué pour ça pour l'instant. Alors, ça voudrait dire quoi ? Qu'on essaie d'améliorer la précision de l'enquête emploi au détriment d'autres enquêtes ? On sait que l'INSEE n'a pas un budget extensible au niveau des enquêtes, que certaines enquêtes sont déjà en passe d'être abandonnées, comme l'enquête sur les conditions de travail, ce qu'on regrette énormément. Donc à notre sens, encore une fois, on dit OK pour améliorer la précision des chiffres sur le chômage, parce que c'est nécessaire de l'étudier correctement et d'avoir des indicateurs qui sont suffisamment bons. C'est les belles paroles dans les journaux, il faut qu'elles soient suivies un minimum de cohérence et ça ne peut pas être un budget constant.
Matériellement, pour doubler le chiffre, il vous faut quoi ? Pour un moyen supplémentaire, si vous passez à 150 000 de panel,
Il faut doubler le nombre d'enquêteurs qui réalisent, enfin pas doubler, le coût sera doublé en termes de coût salarial, pour payer les enquêteurs, et ensuite il y aura des coûts de personnel en plus. Alors les coûts de personnel, c'est encore une fois, c'est actuellement on n'est pas en train d'embaucher des fonctionnaires. Donc le problème, ce sera de réaffecter le travail dans les bureaux qui est réalisé par les directions régionales pour ce faire. Ça, c'est le calcul qui sera fait. Il va être celui-là, malheureusement. Donc, ce n'est pas un terme de doubler. Et même, je ne sais pas si...
Le petit rapport, c'est que pour réduire par deux l'intervalle de confiance, il faut, en théorie, multiplier par plus de 4 le coût de l'enquête. Et en se limitant au coût externe, comme tu dis, sans tenir compte de ce que ça va signifier comme travail supplémentaire pour les agents de l'INSEE, et donc, a priori, comme effectif aussi, qui serait nécessaire pour...
La direction de l'INSEE est très prudente en ce moment pour annoncer une amélioration aussi nette de la précision de l'enquête qui impliquerait donc effectivement des... Bon, c'est pas encore complètement expertisé. Je pense que ce chiffre-là est sans doute dans les ordres de grandeur assez réaliste. Ensuite, la direction de l'INSEE va expertiser tout ça, nous, on ne revendique pas un simple examen du dossier avec réattribution des budgets déjà affectés, parce que ça aurait des conséquences quand même très très embêtantes sur le reste du programme d'enquête statistique du système statistique public.
Le cabinet de Mme Lagarde a l'air de vouloir se focaliser davantage sur, sur le taux d'emploi. Un
C'est pas très nouveau cette idée, puisque c'est quand même la ligne sur laquelle les pays européens, enfin, la Commission européenne notamment, a axé sa stratégie européenne sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on parle plus de taux de chômage, on parle de taux d'emploi. Je pense qu'on est nombreux aussi à penser que il faut rester accroché aussi à l'analyse du marché du travail qui prend en compte
en tout cas ce qu'on avait souligné dans le cadre collectif, non seulement le chômage, mais aussi le mauvais emploi, le sous-emploi, l'emploi précaire. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui du marché du travail. C'est, est-ce qu'il faut 70% de taux d'emploi à bas salaire ou 70% de taux d'emploi précaire ou... Bon. Je crois que la vraie question aujourd'hui, elle n'est pas tellement dans un... Et on retourne encore sur ce fétichisme du chiffre, ce qu'il faut. Alors, un taux d'emploi, un taux de chômage, on voit bien qu'on va retrouver la même focalisation sur un chiffre et je pense que ce n'est pas la bonne façon pour poser aujourd'hui la question de l'emploi et du chômage.
Des conférences télévisuelles, puisque il faut pas sacraliser ce rendez-vous ce matin.
Oui, c'est ce qu'on avait envisagé, en effet. pour l'instant, oui, on espère pouvoir espacer un peu nos activités parce que c'est assez consommateur de temps. Peut-être juste revenir sur la question du redressement qui est annoncé de l'enquête, le redressement des non-répondants. Hein. Je pense qu'on peut peut-être en dire un petit peu plus parce que l'INSEE a fait une enquête donc auprès des non-répondants. Il y a un taux de réponse de 70% à l'enquête emploi, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 30%. Pardon, 80%, oui. Ça veut dire qu'il y a à peu près 20% de personnes qui ne répondent pas. Donc ils ont fait une enquête auprès de ces 20%, début 2006. Pour essayer de voir si leurs caractéristiques étaient différentes de celles des répondants. À cette enquête, auprès des 20% donc de non-répondants, seulement 30% ont répondu. Donc 30% de 20%, ça fait 6%. Vous avez une enquête qui porte sur 6% de la population active. Alors, un taux de non-réponse de 70% sur une enquête, ça, en général, ça fait qu'on considère l'enquête inexploitable. Qu'est-ce que nous dit l'INSEE ? L'INSEE nous dit, sur ces 30% qui ont répondu à l'enquête non répondant, on observe que leur taux de chômage est beaucoup plus faible que le taux de chômage des répondants. Hein, et ça, en effet, le taux de chômage est de 5 points inférieur. Non, pardon, le taux de chômage est de 5% alors qu'il est de 9% sur les répondants. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Alors, le risque, ce que nous on craint, c'est que l'INSEE dise, bon, vous voyez, les non-répondants, leur taux de chômage est de 5%, alors qu'en fait, ça ne concerne que la petite minorité des non-répondants qui a répondu. Donc, on va considérer que, on va redresser l'enquête en considérant que tous les non-répondants, leur taux de chômage est de 5%. Et là, ça aboutit donc à baisser l'estimation du taux de chômage BIT de 0,5 points. Alors, il y a des solutions moins radicales qui consistent à dire, bon, ils sont peut-être pas tous, tous les non-répondants sont peut-être pas dans une situation aussi favorable, mais donc on va prendre une solution intermédiaire, on va redresser seulement 0,2, 0,3 points. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire on ne sait pas par définition qui sont les non-répondants à l'enquête non-répondant. Peut-être ce sont des gens qui sont justement très difficile à atteindre parce qu'ils sont désocialisés, parce qu'ils sont chômeurs de longue durée. On n'en sait rien. Toutes les hypothèses sont possibles. Donc cette enquête est totalement inutilisable, en tout cas pour ce qui est d'un redressement de l'enquête principale. Elle est utile parce qu'elle permet, si elle est répétée dans le temps, elle permet d'essayer de voir si il y a un changement dans ce que répondent les non-répondants, en tout cas. Ça peut peut-être donner des idées sur la nature du biais, et en tout cas sur sa constance, sur le fait de savoir s'il est constant ou pas. Donc c'est bien de faire ce genre d'enquête, mais ça ne peut pas être employé comme une méthode de redressement de l'enquête principale. Ça, on est absolument formel là-dessus. Aucun statisticien sérieux ne peut utiliser une enquête avec un taux de réponse de 30% pour redresser une enquête qui a un taux de réponse de 80%. Ça n'est pas possible. Ça, vraiment, ce serait scandaleux si l'INSEE faisait ce genre de manipulation. je le répète, nous demandons à ce que la méthodologie de l'enquête et les redressements qui sont faits ne soient pas l'objet de changements périodiques, réguliers ou irréguliers d'ailleurs, mais que cette méthodologie et ces modes de calcul soient maintenus constants dans le temps, simplement avec des enquêtes qui permettent de s'assurer que les biais sont d'ampleur constante.
Pas d'autres questions?
On vous remercie.